Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans un nouveau format où l'on va aborder les questions qui m'ont été posées lorsque j'enchaînais les épisodes à l'époque. Il y a un petit moment maintenant, j'en ai pas fait de nouveaux épisodes depuis. Mais là, je voulais adopter ce format pour à la fois répondre aux questions, mais également apporter de nouvelles informations par rapport à ces questions qui m'ont été posées. Et puis, pour vous proposer un nouveau format aussi qui peut-être peut vous plaire et vous apporter de nouvelles informations ou compléter les informations existantes. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et également n'hésitez pas à venir me poser des questions toujours sur Instagram sur Guillaume Alix Plus, toujours le même compte. Et puis vous pouvez également me poser des questions via le podcast directement. Et puis voilà. Donc là j'ai sélectionné 10 questions qui étaient pour moi assez synthétiques, qui vont permettre de répondre à beaucoup d'interrogations de certains d'entre vous, j'espère, qui sont sur des thèmes différents, toujours sur la bourse et la finance en général, mais qui ont des approches techniques différentes, qui sont plus à destination des débutants ou des personnes aguerries. Donc voilà, ça touche un peu tout le monde. Il n'y a pas de classement, je les ai prises comme ça, donc de la première à la dixième. Donc restez jusqu'à la fin, c'est pas, ça sera pas plus ou moins technique à la fin. Voilà, c'est assez général, c'est une première, donc pourquoi pas tester ce format et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Donc en tout cas, la première question qui m'a été posée, c'est quelles sont les principales différences entre le marché des actions et celui des obligations et comment savoir lequel est le plus adapté à mon profil d'investisseur. Alors déjà, dans les faits, il faut savoir ce que c'est une action et ce que c'est une obligation. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas. Une action, c'est une part tout simplement de l'entreprise. Vous êtes propriétaire d'une part de l'entreprise. Donc vous détenez tout simplement un droit de vote, un droit de partage du revenu sous forme de dividendes. Vous avez un pouvoir aussi en termes de vote, vous avez le droit de vendre ou de racheter des actions. Et puis derrière, l'obligation, c'est une autre nature, c'est que vous devenez créancier en fait, de l'entreprise et l'entreprise, entre guillemets, vous doit quelque chose, vous doit le nominal, donc c'est-à-dire l'obligation que vous avez souscrite, et un coupon, c'est-à-dire un rendement en fait, de l'obligation, comme si c'était un dividende un petit peu. Mais la nature du produit est différente. Dans les faits, peu de personnes investissent comme ça dans des obligations. Souvent, c'est par le biais de produits d'investissement tels que des assurances vie qu'on retrouve des obligations. Et ça va permettre en fait de pondérer, c'est-à-dire de maîtriser le risque au sein de votre produit. Par exemple, une assurance vie, on va vous proposer peu de risque, risque modéré ou risque élevé. Souvent, quand on vous propose du risque modéré ou du risque faible, c'est qu'il y a une proportion d'obligations assez importante. On parle souvent d'obligations d'État, parce qu'on parle souvent que les États ne font pas faillite. Bah, c'est tout simplement pour ça qu'on vous met des produits comme ça dans des assurances vie non, entre guillemets, non risquées. Faire attention, hein, ce n'est pas non plus pas risqué, c'est moins risqué. Parce qu'en fait, on vous met des produits qui ont moins de rendement. Une obligation, il faut prendre ça en compte, en général, ça a un peu moins de rendement qu'une action. Mais en théorie, ça comporte un peu moins de risques. Mais encore une fois, il y a des grosses pincettes à prendre parce qu'il y a des obligations qui rapportent un bon rendement, mais qui sont risquées. Il y a une notation en fait des obligations. Par exemple, des entreprises qui émettent des obligations telles que Air Liquide a une notation par les cabinets de notation tels que Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Et cette note qui va être attribuée, comme là on a parlé dans les actualités de la note de la France, la note qui va être attribuée, ça va être, en gros, ça va déterminer le taux d'intérêt que va pouvoir en tirer l'entreprise qui va émettre une obligation. C'est-à-dire que plus sa note est basse, plus son taux d'intérêt va être élevé parce qu'on propose au marché une prime de risque plus importante. C'est-à-dire que la personne qui va souscrire à cette obligation bah, supporte plus de risques parce que l'entreprise est plus risquée ou l'État est moins fiable, etc. Donc faire attention. On dit en général qu'une obligation est en tout cas moins volatile, moins risquée, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Une action, par contre, dans les faits, dans le commun des mortels, on va l'acheter sur le marché comme vous achetez une action en général. Vous allez avoir des dividendes, etc. C'est beaucoup plus simple à acheter et à vendre, c'est beaucoup plus palpable pour les gens. Maintenant, ce n'est pas plus ou moins risqué, les deux sont risqués. Y faire très attention. Et voilà pour la différence. La nature est différente. Dans une, vous êtes propriétaire, dans l'autre, vous êtes créancier. C'est-à-dire que vous n'avez pas de part dans l'entreprise, vous n'avez pas de droit de vote, etc. Vous avez juste le droit d'attendre un revenu sous forme de coupon. La deuxième question. J'ai éteint mon téléphone. Hop. Alors, je suis intéressé par l'investissement dans les actions individuelles, mais je ne sais pas comment choisir les bonnes actions. Quel facteur devrais-je prendre en compte lors de la sélection d'actions à acheter? Alors, la première, l'investissement dans les actions individuelles. Je ne sais pas comment choisir les bonnes actions. Alors, c'est une très très bonne question. Donc, déjà, j'ai fait des épisodes sur la diversification du portefeuille. Donc, il ne faut pas hésiter à aller écouter ce podcast. Et puis, dans un second temps, intéressé par les actions individuelles. Donc, ça dépend également du profil. Pour les personnes qui sont aguerries, ils savent déjà ce que c'est d'ailleurs une action individuelle. Et pour les personnes qui sont débutantes, une action individuelle, c'est tout simplement lorsque vous allez sur une application, sur votre banque, etc., vous achetez une action Total Energy. Ça, c'est une action individuelle. Ça ne veut pas dire j'achète une action. C'est-à-dire qu'on l'achète au nom d'une entreprise. Ça veut dire ça, une action individuelle. Je ne sais pas comment choisir les bonnes actions. Donc, pour choisir les bonnes actions, en effet, dans la deuxième partie de la question, il y a quel facteur devrais-je prendre en compte lors de la sélection des actions? Pour la faire simple, une action, c'est quelque chose qui doit vous rapporter de l'argent. Une deuxième chose, souvent on dit, il ne faut pas investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est déjà deux critères qui sont importants. Quelque chose qui gagne de l'argent, vous allez regarder si la croissance des revenus est assez importante au cours du temps, au cours des années. Déjà dans le passé, vous allez analyser le passé de l'entreprise, regarder s'il est rentable. Ensuite, il vaut mieux aller vers des entreprises qui sont plus pure player. Tout simplement, on va citer Coca-Cola. Vous regardez la pérennité de Coca-Cola dans le passé, elle a une longévité qui est fantastique. Vous allez également avoir les énergies, le pétrole qui fournissent au monde l'énergie nécessaire pour se déplacer, pour subvenir aux besoins. Vous allez également avoir les bancaires qui sont des institutions dans le temps qui ont prouvé leur rusticité. À l'inverse, quand vous ne savez pas trop comment investir et si vous avez envie d'acheter des actions individuelles, évitez plutôt les actions qui sont type conglomérale ou qui sont à la mode. Par exemple, je ne dis pas de ne pas y aller, je dis peut-être à éviter quand c'est à la mode. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais par exemple, des actions du type LVMH, en ce moment, sont peut-être à la mode ou l'ont été. Donc peut-être sont chères. Ce qui peut être un indicateur pour ne pas forcément aller dessus. Donc là, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. Vous allez également avoir des entreprises du type celles qui ont eu des scandales financiers avec Orpea, pour prendre cet exemple-là. Évitez de se jeter à la première occasion sur des actions qui ont eu des scandales. Parce que là, ça peut vous pouvez être surpris justement que ça ne remonte jamais. Après, entre guillemets, moi, je vous conseille plutôt, c'est aller vers des actions qui sont des actions de bon père de famille. C'est-à-dire des actions qui ont prouvé leur rusticité dans le passé, des actions simples et efficaces, pas plus compliquées que ça, qui versent des rendements réguliers. Regardez la régularité des rendements, qui n'est pas à la mode, vous entendez pas parler trop à l'actualité, à part en termes de positif, mais et encore, vous n'entendez pas trop parler. Par exemple, Air Liquide, vous n'en entendez pas trop parler. Voilà des actions qui sont plus ou moins discrètes, qui ont prouvé leur rusticité, qui ne sont pas trop à la mode, pas forcément très sexy, mais qui vous sécurise votre capital. Le but, c'est pas de s'enrichir avec la bourse, c'est de sécuriser votre capital. Donc pensez à ça. Et quand c'est à la mode, c'est souvent trop tard lorsqu'on se met dessus. Ensuite, la fin de la question, c'était quels ratios à prendre en compte, quels facteurs à prendre en compte. Donc là, je vous ai parlé des facteurs qui sont extra-financiers. On va parler un peu de facteurs financiers à la fin de l'épisode parce que j'ai une question à ce propos. Donc pourquoi pas revenir dessus à la fin de l'épisode. Ensuite, la troisième question, comment fonctionnent les indices boursiers comme le SP500, le Dow Jones ou le CAC 40 et pourquoi sont-ils importants pour les investisseurs? Alors, quand vous avez un portefeuille d'actions, la première chose à faire pour savoir s'il est bien diversifié et s'il est performant, c'est surtout de le comparer à votre indice. Par exemple, si vous êtes investi full France, donc c'est-à-dire quasiment que du CAC 40, bah c'est bien de se comparer au CAC 40 parce que vous allez pouvoir voir si vous êtes plus performant. Pensez à prendre en compte aussi le réinvestissement des dividendes, c'est important parce que souvent ça peut être piégeux. Mais si vous êtes moins performant, un ETF est tout aussi intéressant. Enfin, je ne vous dis pas de le faire, ce n'est pas un conseil, mais voilà, déjà on peut se comparer par rapport à ça, avoir cette base de comparaison. Ensuite, le SP500, le Dow Jones et le CAC 40, c'est un indice qui comporte un panier d'entreprises qui sont quand même assez performantes, c'est un fait. C'est le panier des entreprises les plus performantes de leur pays. Alors, il y a deux choses. C'est soit ces entreprises-là sont contenues dans un panier d'investissement, dans des ETF qu'on appelle ça. Donc, les ETF sont souvent détenus par des ménages, par des fonds de pension américains, etc. Donc, lorsque les indices fluctuent, on peut avoir des grosses opérations d'achat et de vente qui ont un impact significatif sur ces marchés-là. Par exemple, les taux d'intérêt, lorsque les taux d'intérêt augmentent ou diminuent, on a des variations sur les marchés financiers qui sont vraiment énormes. Donc lorsque les indices varient, vous allez avoir votre portefeuille qui varie énormément. Donc c'est vraiment un indicateur de suivi qui est ultra pertinent, les indices comme le S&P 500, le Dow Jones, etc. par rapport à ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les fonds de pension pilotent par rapport aux indices. Et c'est intéressant de vérifier à chaque fois, de checker les indices pour justement être à l'affût, éventuellement, lorsque vous voulez vous placer pour acheter ou pour vendre. Ça, c'est très très intéressant. Ce n'est pas forcément le CAC 40 en soi, on s'en fiche. C'est plus regarder déjà ce qu'il y a dedans, pourquoi ça fluctue, etc. C'est vraiment une source d'information primordiale. Ensuite, quatrième question, quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement passif par le biais de fonds indiciels par rapport à l'investissement actif dans des actions individuelles? Alors, l'avantage et inconvénient, donc l'avantage de l'investissement passif par rapport à l'investissement actif, c'est que vous allez déjà ne pas vous soucier de la fluctuation du marché. Vous allez tous les mois mettre des revenus, mettre une part de vos revenus dans l'investissement, dans des fonds indiciels. Voilà. Après, est-ce que ça va être le plus performant? Pas forcément. Pour moi, c'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est une philosophie un petit peu de l'investissement. Vous ne voulez pas vous prendre votre tête, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous avez déjà vos produits d'épargne qui sont complets, vous avez un rendement qui est plus ou moins adéquat par rapport au livret A. Le fonds indiciel, c'est correct, surtout que si vous avez un conseiller financier qui vous apporte des informations nécessaires pour justement couvrir le risque, etc. Bah, franchement, c'est un très bon produit. Après, ça peut être un inconvénient si vous avez la possibilité, si vous avez, comment dire, l'envie d'apprendre à vraiment correctement investir et à diversifier votre patrimoine. Là, l'investissement passif, c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément vous placer au meilleur prix à chaque fois. Vous n'allez pas forcément vendre également au meilleur prix à chaque fois. Vous n'allez pas vendre en général parce que vous êtes passif. C'est là plutôt l'inconvénient de l'investissement passif par rapport aux actions individuelles. Après, l'inconvénient de l'investissement individuel, d'investisseur actif dans les actions individuelles, c'est que vous risquez de peut-être mal diversifier votre portefeuille et, comme on l'a dit précédemment par rapport aux indices, eh ben, d'être moins performant que l'indice. Donc, le fonds indiciel, comme on l'a dit précédemment, ça peut être intéressant lorsque votre performance est plus basse que l'indice et inversement, lorsque vous pouvez avoir les capacités d'avoir une performance supérieure à l'indice. Aller vers un portefeuille d'actions individuelles. Voilà, c'est vraiment une philosophie. Mais ne vous forcez pas, parce que acheter des actions, c'est acheter des actions individuelles, de vous mettre dans les actions individuelles. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est pour vous, votre profil de risque, c'est quoi? Vous voulez vous prendre la tête par rapport à ça? Bah, soyez curieux, allez dans les actions individuelles. Vous voulez pas vous prendre la tête, mais toujours avoir un petit revenu régulier, allez dans les fonds indiciels. Il n'y a même pas de question à se poser par rapport à ça, ni d'avantages ou d'inconvénients. C'est une philosophie. Ensuite, la cinquième question, c'est je suis préoccupé par la volatilité du marché boursier, donc surtout en ce moment. Quelles sont les stratégies que je peux utiliser pour gérer le risque et protéger mon portefeuille d'investissement? Donc la volatilité du marché aujourd'hui, elle est assez importante. D'ailleurs, on va aller checker vite fait le VIX, qui est l'indice de volatilité. Vous pouvez l'ajouter dans votre application bourse d'Apple, typiquement. Vous tapez VIX, tac, c'est action circonflexe VIX. Et en fait, c'est l'indice de volatilité des marchés. Donc, lorsque je mets tout, par exemple, pendant le Covid, on avait un indice de 53 lorsque il y avait eu comment dire, les confinements, etc. Pendant, comment dire, les subprimes, on avait un VIX à 44, 40, 44. Aujourd'hui, le VIX, on va dire, il est bas. Mais il est bas, mais il remonte. On va dire progressivement, sa ligne, elle est quand même en train de remonter. Sa base, en fait, son plancher, il était de 12 en janvier 2024, et là, son plancher, il est dans les 15, un truc comme ça. Donc, quand même, ça remonte tranquillement, et parfois, on peut avoir des pics comme le 16 avril 2024 à 18, voire 20. Donc, faire très attention par rapport à ça. Le VIX, c'est un bon indicateur, et vous pouvez voir si justement il y a juste un affolement de marché ou si c'est vraiment une tendance de fond qui est en train de se faire par rapport à une baisse ou à une hausse des marchés. Déjà, pour la volatilité, on a répondu à cette question. Dans un premier temps, comme on observe qu'il y a beaucoup d'inflation, l'État, pour endiguer cela, et c'est tout à fait normal en termes économiques, cherche à endiguer la consommation, à ralentir du moins la consommation. Parce que qui dit inflation, c'est parce qu'il y a
du pouvoir d'achat qui est extrait des produits d'épargne et qui permet de stimuler l'économie. Et quand l'offre est plus petite que la demande, eh ben on a une inflation constante et on a une inflation qui est continue. Aujourd'hui, on a une forte inflation du fait aussi des coûts de l'énergie. Donc on va parler un petit peu économie en général. Du coup, là, l'État en soi ne peut rien faire parce que les cours du pétrole sont pilotés par des ententes commerciales dans les pays du Moyen-Orient. Et là, en fait, on n'y peut rien. Il y a une inflation des prix de l'énergie, tout simplement parce qu'il y a une production qui est volontairement moindre. Donc là, on peut augmenter les taux d'intérêt comme on le veut, ça n'aura aucune incidence. Par contre, dans un second temps, là où on a eu de l'inflation, c'est aussi dans la reprise économique, par exemple chez les constructeurs automobiles, etc. On a eu beaucoup d'inflation, les produits alimentaires, on a eu beaucoup d'inflation, etc., dû aussi au conflit du côté de l'Ukraine, du côté d'Israël. Donc bien sûr, ce ne sont pas les pays qui génèrent le plus d'économies, mais c'est quand même des pays qui sont centraux en termes de flux de transport, de flux financiers. Et donc tout ça a généré une certaine inflation de l'économie en général. Donc pour freiner cela, la seule variable pilotable, c'est les taux d'intérêt. Donc le fait d'endiguer l'inflation par l'augmentation des taux d'intérêt, ça engendre un stock important dans les livrets d'épargne. Donc déjà pour se protéger, vu qu'on a une augmentation du taux d'intérêt des livrets réglementés, on peut déjà aller sur ces livrets-là parce que rémunérés à 3%, on est parfois plus intéressant que de prendre des risques sur des actions, que vous pouvez tout perdre et vous pouvez souvent peut-être même avoir un rendement qui est inférieur à 3%. Déjà, dans un premier temps, vous avez ça, les livrets réglementés, qui sont quand même quelque chose d'important plutôt que de tout mettre en action. Ensuite, on peut aller sur des actions type traditionnelles, typiquement l'énergie. Vous voyez, l'énergie, je parle du pétrole. On parle des pays du Moyen-Orient, mais Total Energy, c'est une entreprise qui profite de cette augmentation des cours du pétrole. Mais pourquoi Total en profite? C'est tout simplement parce que son seuil de rentabilité en fait du pétrole qu'elle extrait est très faible. Elle permet vraiment de vendre. Lorsque les cours du pétrole augmentent pour Total, par exemple lorsque le baril du pétrole augmente à 80 $, Total fait encore plus de cash que n'importe quelle entreprise pétrolière. Tout simplement parce que son coût, je crois, est environ de 25 $ le baril. Donc vous comprenez tout de suite la marge de manœuvre qui est disponible chez Total Energy. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle se permet de bloquer le prix du pétrole, le prix du gasoil, etc. à 1,99 dans les stations-service. C'est parce qu'il y a une marge de manœuvre tellement importante. Total Energy est l'une des entreprises les mieux gérées du secteur énergétique et pétrolier. Donc aller vers des entreprises qui profitent des augmentations des cours, comme ça, des marchés libres économiques et financiers, type pétrole. Vous avez également les entreprises qui tirent leur prix dans les magasins, type Danone, qui profitent d'une image de marque assez forte. Alors moi, je ne vais pas parler des JO, ça ne va pas profiter forcément des JO, même si elle a produit des produits dérivés pour les JO, avec des produits laitiers pour les sportifs, etc. On va plutôt développer une gamme de manière incrémentale, mais ça ne va pas diriger la stratégie pleinement de Danone. Mais aller vers des entreprises type traditionnelles n'est pas forcément toujours aller se positionner vers des actions qui sont à la mode, encore une fois. Plus, voilà, vous pensez que vous consommez ça, vous achetez ça, allez vers les priorités. Par exemple, vous savez qu'un ménage, sa priorité de consommation, c'est ça. Vous, c'est ça, vous, c'est ça, vous allez consommer ça malgré la hausse des prix. Vous allez là, par exemple, l'industrie pharmaceutique aura toujours un intérêt dans des périodes inflationnistes. Au contraire, par contre, dans les périodes inflationnistes, là vous avez une hausse des taux d'intérêt, les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt, vous l'avez vu, vous le voyez, le marché de l'immobilier est en berne, est en crise complètement. Il y a des suppressions d'emplois qui sont assez importantes. Les actions du secteur en ce moment sont un petit peu en train d'augmenter, mais ce n'est pas forcément la folie. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Ne pas se diriger vers des secteurs qui ne profitent pas forcément de ces crises-là, de ces cycles-là. Et en parlant de cycle, le secteur automobile est un énorme exemple en termes de cycle économique, parce que vous avez des vagues comment dire, de changement de parc automobile chez les particuliers, et puis parfois vous n'avez plus rien. En ce moment, c'est en train de changer avec le leasing, mais c'est souvent parfois même les banques qui vont profiter du leasing. C'est pour ça que les entreprises automobiles créent des filiales bancaires avec par exemple chez Renault Mobilize où vous avez la Société Générale qui crée ALD, où vous allez avoir par exemple BNP Paribas qui va également créer sa filiale automobile, ou qui l'a peut-être déjà créée, pour les leasings. En fait, vous avez vraiment, faut vraiment aller chercher où est-ce que le flux, où est-ce que le flux y va pour être assez, pour profiter de ces rendements-là. Donc aller vers l'économie traditionnelle et l'économie qui peut se permettre d'augmenter les prix. Vous n'allez peut-être pas forcément aller dans le textile de moyenne gamme, parce que le textile de moyenne gamme, aujourd'hui, c'est pas trop où se positionner, et donc vous risquez de perdre gros, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, etc. Donc c'est assez risqué de s'y rendre. Vous avez également, en ce moment, des complications politiques avec la Chine, typiquement, qui essaye de boycotter, qui essaye de boycotter l'alcool de Pernod Ricard. Donc typiquement aujourd'hui Pernod Ricard est en difficulté. Donc pourquoi pas peut-être réfléchir à se positionner sur Pernod Ricard pour réfléchir à un rebond, parce que Pernod Ricard a toujours existé, Pernod Ricard je pense existera toujours. Pernod Ricard profite également de l'augmentation des prix. Voilà, là-dessus en termes d'effet prix. Chez Pernod Ricard, ça a été quand même un de ses atouts dans le passé. Donc pourquoi pas dans le futur? Encore une fois, regardez le passé pour le futur. Voilà, donc là, ça fait déjà pas mal d'indicateurs pour savoir comment se protéger. Ensuite, ne pas se jeter sur les actions. Par exemple, typiquement, vous avez des actions comme L'Oréal avec des ratios de PER assez conséquents. Faire attention à ces indicateurs-là avant d'investir. Monsieur préoccupé, sixième question. Comment les événements économiques et politiques tels que les décisions de la Réserve fédérale ou les élections affectent-ils généralement le marché boursier, et comment puis-je me positionner en conséquence en tant qu'investisseur? Alors là, c'est une question où on cherche vraiment à tirer parti, à tirer profit de chaque événement. C'est vraiment louable, mais c'est risqué. Parce que les événements économiques et politiques, déjà, on ne les prédit pas. Et encore une fois, on ne connaît pas la sortie de tout ça. Pourquoi? Parce que typiquement, si on reprend les subprimes, ça aurait pu totalement repartir très rapidement si, admettons, si les Américains avaient sauvé toutes les banques. Nous, en Europe, on a mis du cash dans les banques, donc c'est reparti. Mais en soi, les pays étaient quand même très en crise. Les pays ont payé économiquement ces actions. Et puis, politiquement parlant, vous pouvez avoir la droite, la gauche qui passe dans tel ou tel pays, et finalement la bourse qui repart. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas analysé l'Argentine, mais avec le nouveau président argentin, au début je croyais, si je me souviens bien, je crois que c'était vraiment mal vu par les marchés. Aujourd'hui c'est bien vu, ou inversement. Donc en fait c'est très dur à prédire. Et lorsqu'il y avait Trump, on allait dire que c'était une catastrophe, la bourse est repartie aux États-Unis. Enfin voilà, tout ça c'est imprévisible en fait. Moi je ne me positionne pas sur les marchés en fonction des enjeux politiques, si ce n'est que si vraiment il y a des, au sein et pendant d'un mandat, il y a des actions politiques contre par exemple des secteurs d'activité, typiquement les investissements éco-responsables, environnementaux, etc., des fonds que les banques doivent mettre en place avec des critères environnementaux, ça peut impacter les entreprises, ça peut vraiment avoir un impact sur les entreprises. Donc, avoir plutôt en interne au sein d'un mandat, mais peut-être pas lié à des élections, ou du moins y faire très attention, parce que ça peut être risqué. Alors, la question suivante. Quels sont les principaux indices de performance utilisés pour évaluer la santé globale du marché boursier? Et comment les investisseurs peuvent-ils interpréter ces indices pour prendre des décisions d'investissement éclairées? Donc, les principaux indices de performance utilisés pour évaluer la santé globale du marché, moi je peux en citer deux comme ça. Vous avez le VIX, comme je vous ai parlé tout à l'heure, VIX, et vous avez également le PER de Shiller. Donc le PER de Shiller, c'est un PER qui est déterminé sur 10 ans, je crois, et en fait il permet de déterminer la volatilité du marché. Et vous pouvez aller voir, vous tapez PER de Shiller sur internet, et vous allez voir les PER qui sont actuels versus les PER qui étaient calculés à l'heure actuelle versus ceux du passé lorsqu'il y avait la crise financière. Typiquement, le PER actuel, je crois, sur le PER de Shiller, il est de 30, et on n'est pas si loin du PER de Shiller pendant la crise des subprimes. Je ne vais pas dire de bêtises, mais allez voir. Donc ça, c'est deux indicateurs, PER de Shiller et VIX, qui sont très pertinents pour justement Suivre est-ce que c'est un bon moment pour investir ou non? Et puis rien de mieux également que l'actualité en général, sans pour autant se polluer à l'esprit. Parce que l'actualité en général peut également avoir un mauvais avis sur votre interprétation des états financiers. Après, les indices de performance, et surtout lorsque vous allez acheter des actions individuelles, va vraiment analyser de manière individuelle les actions. Les indices de performance, c'est vraiment global. Est-ce que le marché se porte bien? Est-ce qu'il est en crise? Est-ce qu'on est en crack? Est-ce qu'on est en bulle? C'est vraiment à ça que servent les indices de performance. Alors, avant-dernière question, je vois souvent des termes comme PE, dividende, BPA. Dans les analyses actions, pourriez-vous m'expliquer ce que signifient ces termes et comment sont-ils utilisés pour la valeur d'une action? Alors, PE, Price Earning Ratio, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est le cours d'une seule action divisé par les bénéfices, eux-mêmes divisés par le nombre d'actions. Grosso modo, lorsque vous achetez une action et que vous voyez PER de 20, vous achetez 20 ans de bénéfices. Vous vous dites, pour rentabiliser mon action, il faut que j'attende 20 ans, typiquement parce que vous l'achetez 20 fois les bénéfices. Une action détermine 20 fois est définie par 20 fois les bénéfices. Donc déjà, c'est pour ce premier ratio. Ensuite, il faut le comparer. C'est un ratio de comparaison. Vous allez pouvoir comparer sur une action du même secteur d'activité, pas ou bien un secteur d'activité différent, d'un même secteur d'activité, une action qui est plus ou moins surévaluée en fonction de l'autre, en fait, tout simplement. Et vous allez avoir également des plafonds et des planchers de PE en général qu'on parle, et on dit dans le jargon 20 de PE, c'est quelque chose de raisonnable. Après, ça va dépendre encore une fois. Vous allez pouvoir aller vers des actions du type pétrolière, vous allez avoir des PE de 8, vous allez aller dans les actions financières entre 8 et 5, vous allez aller dans le luxe, vous allez être plus entre 20 et 30, voire 33-40 pour L'Oréal typiquement. Donc ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Typiquement le secteur automobile avec Tesla, on avait des PE phénoménaux, je ne sais même plus combien, comparé au secteur automobile actuel avec typiquement Renault qui a un PE, je crois, de 3 à 4, à peu près comme Stellantis, mais je ne suis pas sûr. Alors voilà, en fonction des secteurs d'activité, vous allez avoir des PE différents. Donc ne pas prendre le vin comme quelque chose voilà, de commun et la parole qui permet vraiment de déterminer le PE sûr. Non, c'est vraiment en fonction du secteur d'activité. Là, je parle vraiment en général. Ensuite, le terme de BPA, le terme de dividende déjà. Le terme de dividende, en fait, en fonction du nombre d'actions que vous allez avoir, donc du pouvoir que vous allez avoir dans l'entreprise, vous allez avoir un dividende qui va être réinvesti. C'est une part du bénéfice. Lorsqu'une entreprise fait du bénéfice, elle peut décider de distribuer ce bénéfice en dividende ou bien de le réinvestir. C'est pour ça que vous avez des entreprises qui distribuent pas de dividendes, peu de dividendes ou beaucoup de dividendes. Pour faire simple, les entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, elles n'ont pas besoin de draguer les investisseurs parce que le cours de l'action monte tellement, typiquement dans les actions des GAFAM, elles n'ont pas besoin d'attirer les investisseurs parce que le dividende attire les investisseurs, parce qu'elles savent que le bénéfice croît énormément. Vous avez Google, je crois, et Facebook, il y a 2 ans, ont commencé à verser leur premier dividende parce qu'on voit une stagnation et une maturation du secteur, typiquement de Facebook, de Google. Et de ces entreprises de ce secteur. Donc, on a besoin d'avoir une rétention du capital et donc une rétention des investisseurs et pour en attirer de nouveau, avoir une politique de distribution du dividende. Les entreprises à l'époque préféraient garder leur cash pour investir dans leur business model. Et là, on va avoir des entreprises qui sont peut-être plus matures et qui ont besoin de moins de cash pour investir ou qui en ont beaucoup et du coup qui décident de le distribuer. Ensuite, vous allez avoir des entreprises qui sont très matures, voire peut-être en déclin, telles que le secteur pétrolier avec Total Energy, qui distribue des dividendes avec un rendement très très important. Et donc là, c'est pour avoir une rétention et une fidélisation même des anciens actionnaires, pour ne pas qu'ils quittent le navire. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de dividendes. Et vous avez des entreprises qui ont un dividende qui n'est pas forcément en termes de rendement très important, mais toujours en forte croissance. Donc typiquement, vous avez Total, mais pour donner un autre exemple, et Air Liquide à cette notion-là du dividende croissant dans le futur et dans le passé également. Et vous avez la notion d'action gratuite, donc qui fait pas doubler, mais qui donne un rendement supplémentaire à vos actions. Et donc il y a vraiment la notion de de comment de rendement composé. Donc voilà à quoi servent les dividendes et ce que c'est vraiment en général. Ensuite, vous avez le BPA ou le earning per share. Donc c'est le revenu par action, le bénéfice par action. Donc il sert à déterminer une chose assez importante selon moi. C'est par exemple le dividende qui va être versé de 4 euros et vous avez un BPA, donc un bénéfice par action de 8 euros. Bah, vous voyez que le revenu qui est distribué par rapport au bénéfice par action, il est entre guillemets correct ou du moins équilibré. Il y a 50% du revenu de l'entreprise qui est distribué sous forme de dividende. Donc là, ça permet de déterminer si l'entreprise, pour justement draguer les investisseurs, est obligée de carrément de donner tout son cash, tout son bénéfice, ou à une politique en général de donner tout son bénéfice aux actionnaires. Donc ça dépend du business model, mais ça peut être risqué. Donc ça permet vraiment de comparer le montant du dividende et le bénéfice par action. Et puis également, on peut regarder si le bénéfice par action augmente dans le futur. Mais là, il faut faire attention dans le sens où vous pouvez avoir un bénéfice par action qui augmente parce que vous avez des actions qui diminuent. Du coup, vous avez le nombre d'actions, les actions deviennent plus rares au sein du portefeuille total des actionnaires. Donc vous avez une augmentation individuelle des actions plus importante. Donc faut faire attention à ce ratio-là du nombre d'actions, du rachat d'actions en fait. Mais ça, on pourra en reparler dans d'autres épisodes et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment. Donc voilà pour ces trois indicateurs qui sont assez intéressants et fondamentaux. Ensuite, la dernière question, quelles sont quelques-unes des erreurs les plus courantes que les investisseurs font en investissant dans le marché boursier et comment puis-je les éviter pour maximiser mes chances de succès? Alors, chances de succès, je le souhaite, mais en tout cas, déjà pour minimiser le risque, là on peut essayer de trouver des indicateurs. Dans un premier temps, vous allez avoir les erreurs du type la confiance en soi excessive. Typiquement, vous allez avoir des actions qui sont peut-être surévaluées, mais on se dit je suis sûr que ça va monter et là on va acheter. Typiquement, c'est une erreur. On va avoir une erreur aussi d'un manque de diversification. Ça, c'est une erreur qui est très courante, mais qui est tout à fait louable. En fait, on peut se faire avoir par un manque de diversification et le but c'est juste de se corriger après par la suite. Donc voilà, moi c'est ça, c'est juste essayer de ne pas être aveuglé par la confiance qu'on a et qu'on se dit juste je connais le secteur, ou alors d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas et d'être sûr de soi alors que finalement on ne connaît pas trop. Et puis la deuxième chose c'est de manquer de diversification là qui peut être vraiment risqué et facilement corrigeable, mais qui peut facilement arriver également. Donc voilà pour ces 10 questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en poser davantage, comme je vous l'ai dit sur Instagram. N'hésitez pas également à m'en poser directement via Spotify ou les autres plateformes. C'est avec grand plaisir. Et puis j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Ça peut me permettre de voir si je vous en refais un ou pas dans le futur. Et puis voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine pour le prochain.